Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi 1er février 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Le président iranien a inauguré une série de nouveaux projets énergétiques. Des unités de la guerre électronique, des groupes de résistance ont pris le contrôle d'un drone israélien au-dessus de Gaza et l'armée birmane a arrêté la dirigeante Aung San Suu Kyi et déclaré l'état d'urgence pour un an dans le pays. C'était les titres, en voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a inauguré une série de nouveaux projets énergétiques alors que la capacité totale du pays pour la production d'électricité dans le secteur non renouvelable dépasse 85 gigawatts. Rouhani a utilisé une session de vidéoconférence dimanche pour ouvrir les projets dans deux provinces iraniennes. Son site web indique que l'investissement total pour les 13 projets s'est élevé à 48 millions de rials, près de 200 millions de dollars. Parmi les projets lancés dimanche figurait une centrale à vapeur dans la centrale à cycle combiné de la ville de Shirvan. La nouvelle unité produira 160 MW par heure d'électricité, ce qui portera la capacité de production totale de l'Iran dans le secteur non renouvelable à plus de 85 000 MW. L'Iran a été contraint d'imposer de brèves coupures de courant dans les grandes villes plus tôt ce mois-ci, au milieu d'une vague de froid dans le pays qui a provoqué une augmentation sans précédent de la demande de gaz naturel et forcé des fermetures périodiques de centrales électriques au gaz. La production réelle d'électricité dans le pays a atteint plus de 40 gigawatts aux heures de pointe ce mois-ci selon les chiffres du ministère de l'Énergie. Lors de la cérémonie d'inauguration de dimanche, Rouhani a déclaré que la capacité de production d'électricité en Iran avait augmenté d'une moyenne record de 2,5 gigawatts par an depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Des sources palestiniennes ont rapporté que des unités de la guerre électronique, des groupes de résistance, avaient pris le contrôle d'un drone israélien au-dessus de Gaza. Dimanche soir, des groupes de résistance palestiniennes se sont emparés d'un drone de l'armée israélienne au-dessus de la région de Beit Hanoun dans le nord de Gaza. Le régime sioniste utilise des drones pour collecter des informations depuis Gaza. Par ailleurs, des militaires sionistes ont fait irruption dimanche dans Bethléem, en Cisjordanie occupée, selon Al-Mayadin. Un Palestinien a été tué. Le jeune homme voulait mener une attaque à l'arme blanche contre les militaires israéliens à Bethléem, prétend l'armée israélienne dans un communiqué. Une allégation de plus pour justifier les crimes et exactions du régime sioniste contre les Palestiniens. Les oulémas de la Mauritanie ont émis une fatwa interdisant la normalisation avec Israël. 200 érudits et imams mauritaniens ont émis dimanche 31 janvier une fatwa interdisant la normalisation avec Israël. La relation avec l'entité usurpatrice de la terre de Palestine et l'occupant de Quds et de ses environs est interdite et n'est en aucun cas permise. Les signataires de la fatwa ont affirmé lors d'une réunion qu'ils ont organisée dimanche soir à la mosquée Al-Tawfir à Nouakchott que la normalisation est un soutien total aux sionistes usurpateurs et à tous leurs actes de mort et destruction et cela ne relève pas de la réconciliation. Ils ont appelé le gouvernement de leur pays à respecter ce qu'il avait annoncé précédemment. Nouakchott avait annoncé qu'il n'avait pas l'intention de normaliser avec Israël. Il est à noter que la Mauritanie a coupé ses relations avec Israël en 2009, pendant la guerre à Gaza. Des sources de presse israéliennes et américaines prétendent que la Mauritanie et l'Indonésie ont l'intention de normaliser avec Israël. L'alliance militaire de l'OTAN, dirigée par les États-Unis, prévoit de maintenir des troupes militaires en Afghanistan au-delà de la date limite de mai, une mesure qui devrait aggraver les tensions avec les talibans, exigeant une mise en œuvre complète de l'accord de Doha avec les États-Unis. Citant quatre hauts responsables de l'OTAN, Reuters a rapporté dimanche que l'alliance militaire ne prévoyait pas de retrait complet d'Afghanistan d'ici la fin avril. Dans le cadre de l'accord signé l'année dernière entre les talibans et l'administration de l'ancien président américain Donald Trump dans la capitale qatari Doha, toutes les troupes étrangères devraient quitter le sol afghan d'ici mai en échange de l'arrêt par les talibans de leurs attaques contre les forces internationales. Dimanche, le porte-parole des talibans, Mohamed Naïm, a exhorté les États-Unis à respecter l'accord de Doha. Le séjour des troupes étrangères au-delà du délai prédéterminé est contraire aux accords bilatéraux, a-t-il averti. La Russie a condamné l'ingérence des États-Unis dans ses affaires intérieures. Elle s'en est prise à l'ambassade des États-Unis à Moscou, ainsi qu'aux grandes entreprises américaines du web, à la suite des manifestations qui ont réuni samedi dernier des dizaines de milliers de personnes à travers le pays. Ces manifestations, non autorisées et organisées en soutien à l'opposant Alexei Navalny, emprisonné depuis son retour en Russie le 17 janvier, ont entraîné plus de 3 500 arrestations. L'ambassade américaine avait appelé ses ressortissants à la prudence en marge de ces rassemblements, précisant les lieux où ils se déroulaient. L'ambassade avait aussi dit soutenir le droit de tous à manifester pacifiquement et à la libre expression. Dans des déclarations accordées aux médias, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait souligné que l'annonce faite par l'ambassade américaine à Moscou au sujet de son soutien aux manifestations qui se déroulent en Russie constitue une ingérence dans les affaires intérieures de ce pays. Le ministère a déclaré récemment que l'action des États-Unis consistait à semer la discorde, un instrument de la démocratie américaine, surtout en période de pandémie. Il a ainsi exhorté les autorités américaines à se focaliser davantage sur les problèmes relatifs à leur propre pays. Une explosion de voitures piégées a frappé un hôtel du centre de la capitale somalienne, Mogadiscio, faisant un nombre indéterminé de victimes. Le groupe terroriste Al-Shabaab, basé en Somalie, a revendiqué la responsabilité de l'attaque qui a eu lieu à l'hôtel Afrique, près de la jonction stratégique A4 de Mogadiscio, dimanche après-midi. La police a déclaré qu'un véhicule chargé d'explosifs s'était écrasé dans la porte d'entrée de l'hôtel, ce qui a été suivi d'une fusillade entre un certain nombre d'hommes armés et les forces de sécurité. De violents coups de feu ont pu être entendus, a déclaré la police, ajoutant que de nombreuses personnes avait été sauvé de l'hôtel. Les forces de sécurité ont immédiatement bouclé le site de l'attaque. Les Shabab liés à Al-Qaïda mènent une insurrection depuis plus d'une décennie en Somalie. La Somalie est confrontée à l'instabilité et à la violence depuis 1991, lorsque le gouvernement militaire a été renversé. Et pour fermer le journal, en Birmanie, la conseillère d'État Aung San Suu Kyi, le président Win Myint et d'autres hauts responsables de la Ligue nationale pour la démocratie au pouvoir ont été détenus lundi matin par l'armée birmane, a déclaré le porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie, Myo Nguyen. La chaîne de télévision militaire de Birmanie a annoncé lundi la déclaration de l'état d'urgence dans le pays pour une durée d'un an après l'arrestation de plusieurs dirigeants du gouvernement. Dans un discours diffusé sur sa chaîne de télévision, l'armée birmane a indiqué que les arrestations des hauts dirigeants répondaient à ce qu'elle dénonce comme une fraude lors des élections législatives de novembre 2020, remportées massivement par la LND, Ligue nationale pour la démocratie. La radio et télévision d'État a cessé toute activité lundi matin. Les télécommunications dans la capitale, Naypyidaw, ainsi que dans d'autres régions et États ont été également coupées. La première session ordinaire de la nouvelle session parlementaire devait commencer par la convocation de la Chambre des représentants lundi, de la Chambre des nationalités mardi et de la session de l'Assemblée de l'Union le 5 février. Les prochaines sessions parlementaires éliront les présidents des deux chambres du Parlement et formeront des commissions parlementaires tout en élisant le président et les vice-présidents dans le cadre de la formation du gouvernement. La Birmanie a organisé des élections générales multipartites le 8 novembre 2020 et la LND au pouvoir a remporté la majorité des sièges aux deux chambres de l'Assemblée de l'Union. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël, Iran, la fatale erreur de Moody. Entre BRICS, l'aventure de créer une force multilatéraliste propre à contrer l'Empire est loin d'être terminée, même si les 4 années de Trump, marquées par d'infinis agissements visant à mettre face à face l'Inde et la Chine, ont laissé des séquelles. En effet, il y a un vecteur qui pourrait provoquer un dégel et rapprocher les deux géants émergents, quitte à donner corps à un ordre nouveau. Ce vecteur stratégique s'appelle l'Iran, d'où cette nouvelle affaire sortie droit de la boîte à outils de l'Empire qu'est le régime sioniste. Il y a 2 jours, un engin explosif a pété non loin de l'ambassade israélienne à la Nouvelle-Delhi, peu de temps après que le gouvernement de Modi ait annoncé, dans un geste bonne volonté à l'adresse de l'Iran, la mise en liberté de 15 pêcheurs iraniens détenus en Inde pour cause de pêche illégale, mais en réalité pour plaire à l'Amérique de Trump. Le premier ministre Modi, dont la politique a connu un virage de 180 degrés sous Trump, avait aussi renoncé à l'achat du pétrole iranien, à investir dans le méga-projet eurasiatique du port de Chabahar au sud de l'Iran. Là encore, pour les beaux yeux d'une Amérique trumpiste et évidemment au détriment de ses propres intérêts. Sont entrés également en ligne de mire de ces tentatives de séduction pro-Israël, pro-USA de l'Inde, l'annulation de l'autonomie de Cachemire et le mauvais traitement réservé à sa population chiite. Or, ce fut avec affliction que la Nouvelle-Delhi a appris en juin 2020 que l'Iran l'a tout bonnement remplacé par l'Empire du Milieu, qui lui n'avait pas demandé des permissions de qui que ce soit pour venir investir dans le plus grand champ gazier du monde, à savoir par Sud, ou encore dans le port stratégique de Chabahar, et ce en complémentarité avec ses projets à Gwadar, au Pakistan, à aider à la mise au point de la liaison ferroviaire Iran-Afghanistan. Ces couleuvres, l'Inde les a avalées sans sourcil et par crainte de froisser Trump. Mais à la minute où la couleur a changé à la Maison-Blanche, Moody s'est précipité pour annoncer qu'il espère reprendre ses achats de pétrole iranien. Car ces années sans pétrole iranien ont été loin d'être faciles à vivre pour la Nouvelle-Delhi. L'Inde compte désormais jouer le rôle de médiateur et convaincre les États-Unis de lever les sanctions contre l'Iran. Il y va de ses intérêts de géant économique émergent, écrit le site web DeepRint. est terrorisé à avoir à perdre un Inde qui irait droit normaliser avec l'Iran et qui servirait de médiateur à une levée de sanctions anti-Iran, le Mossad s'active. Selon la chaîne en hébreu Khan, Israël a annoncé samedi que le Mossad serait impliqué dans l'enquête sur la récente explosion devant l'ambassade d'Israël à la Nouvelle-Delhi et qu'a revendiqué un obscur groupe, le dénommé Jaish al-Hind. Certes, l'explosion n'a fait aucune victime, mais cela est suffisant pour que Tel Aviv en fasse un élément de preuve contre l'Iran, l'accusant d'avoir riposté à la mort de ces deux grandes figures militaires et politiques sur le dos des représentations diplomatiques. Reste à savoir si l'Inde irait oui ou non tomber encore dans le piège. Pour l'heure, la police indienne qui enquête sur l'incident dit n'avoir aucune preuve liant l'Iran à l'explosion près de l'ambassade d'Israël à la Nouvelle-Delhi. Une chose est sûre, l'accord stratégique Chine-Iran se trouve à un stade trop avancé pour que l'Inde ait une seconde chance à l'erreur.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu dans le cadre d'une tournée régionale la semaine dernière en Azerbaïdjan, en Arménie, en Russie, en Géorgie, en Turquie. À Bakou, M. Zarif a rencontré le vice-premier ministre azerbaïdjanais et a réitéré la volonté de la République islamique d'Iran de participer à la reconstruction de la zone de libre-échange de l'Azerbaïdjan. En Russie, le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov, et les deux parties ont signé un accord de coopération commune dans le domaine de la cybersécurité. Lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Zarif, Sergueï Lavrov s'est penché sur l'accord nucléaire, une éventuelle réintégration de l'accord par les États-Unis et a souligné que les relations Téhéran-Moscou étaient indépendantes des tendances ambitieuses de Washington. Et en Turquie, M. Zarif a annoncé qu'une réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de l'Iran et de l'Azerbaïdjan aura prochainement lieu à Téhéran. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de cette tournée régionale de M. Zarif quelques jours après l'investiture du nouveau président américain, Joe Biden, la formation de nouvelles alliances régionales, notamment en Asie centrale et dans le Caucase sud, contre l'axe États-Unis, OTAN, Israël, et bien entendu la perspective de nouvelles évolutions. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Entre le dimanche 24 janvier et le vendredi 29 janvier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a effectué une tournée régionale le conduisant en République d'Azerbaïdjan, en Russie, en Arménie, en Géorgie et en Turquie, pour s'entretenir avec ses homologues ainsi que d'autres responsables des pays concernés. C'est le Caucase Sud, zone stratégique située au confluent des routes énergétiques qu'aucun acteur régional international ne peut ignorer. Les entretiens de Zarif ont ainsi été axés sur le renforcement d'une convergence régionale, chose contre quoi l'axe US-Israël-OTAN fait tout, puisque c'est là que réside la clé du succès de leur plan de déstabilisation, de leur projet de révolution colorée, bref, d'un retour du statu quo hanté quand USA, l'OTAN faisait la pluie et le beau temps dans l'arrière-cour irano-sinorus. Au fait, à l'heure des changements de couleur à Washington, les craintes des coups fourrés démocrates que sont la Turquie d'Erdogan, la classe dirigeante pro-Trump de la Géorgie, l'Iran a voulu rappeler qu'il est faux de compter sur des pays situés à des milliers de kilomètres du Caucase, alors que la force se trouve toujours dans l'unité avec ses voisins. Une coopération assise qui unirait l'Iran, la Russie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie est la bienvenue, surtout que la saignée du Haut-Karabakh a bien prouvé aux populations des pays concernés à quel point l'Empire US et ses affidés font peu de cas des peuples de la région, de leur présent, de leur avenir, et comment ils se jouent de leur paix et de leur sécurité, ne voyant en eux que des cobayes des laboratoires militaires et des terrains d'essai des usines d'armement. Les entretiens de Zarif ne se sont pas limités à des sujets comme la coopération et la convergence régionale. L'accord nucléaire de 2015 a dominé une bonne partie des discussions entre les chefs de la diplomatie iranienne et russe à Moscou. Ce qui nous importe quant à la nouvelle administration américaine est que si Joe Biden lève les sanctions que Trump avait imposées à la République islamique d'Iran, a dit à Moscou Zarif. Il a souligné que si la partie américaine annulait les sanctions anti-iraniennes et qu'elle cessait d'entraver les coopérations économiques entre Téhéran et d'autres pays, l'Iran lui aussi retournerait à ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire. Ainsi, les sirènes occidentales ne parviendront plus à ensommeiller Téhéran, qui s'est érigé en puissance régionale, voire en pivot des alliances nouvelles.
Au retour au plateau de l'émission du débat, merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Moscou, M. Mikhail Egorov, analyste chroniqueur à l'agence Observateur Continental. M. Egorov, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous pour m'avoir invité et je salue également M. Dortiguier.
Monsieur Egorov, alors une évolution importante en Asie centrale et dans le Caucase Sud, la tournée régionale du chef de la diplomatie iranienne, ses déplacements en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Russie et en Turquie. Bien sûr, lors de ses déplacements et lors de ses entretiens avec les responsables de ces pays, M. Zarif a souligné l'importance d'une coopération régionale étroite, d'une synergie régionale pour promouvoir la stabilité, mais aussi pour prévenir, en effet, de nouveaux conflits dans la région. Dans quelle mesure, alors, la formation de telles alliances pourrait, en effet, serait bénéfique pour toute la région et pourrait contrer les velléités interventionnistes et expansionnistes des puissances extra-régionales.
Merci pour cette question. Tout d'abord, je pense qu'effectivement, ce serait fortement saluable, non seulement pour toute la région et pour le grand espace eurasiatique dans son ensemble. Je pense que ce serait également très salutaire pour toute la communauté internationale, dans le vrai sens du terme de la communauté internationale. Je pense que cette tournée de M. Zarif dans les pays qui ont concerné, elle signifie plusieurs choses. Tout d'abord que l'Iran est une force régionale indéniable, et comme je l'ai souvent dit, je pense qu'aujourd'hui l'Iran peut même être considéré comme une puissance internationale montante, sachant que l'Iran a évidemment une influence certaine dans la région qui le concerne, mais l'Iran a aussi des relations fortes à d'autres endroits du monde, notamment en Amérique latine, avec nombre de pays d'Amérique latine qui résistent également aux velléités de Washington. Deuxième chose qu'il faudrait dire, c'est que effectivement, on a bien vu que toute cette rhétorique hostile, et je dirais même cette propagande hostile à la République islamique d'Iran, reste que de la propagande. Parce que malgré tout ce que Washington aurait pu déclarer, que l'économie iranienne serait asphyxiée, que l'Iran est isolé, évidemment dans cela il est activement soutenu par Tel Aviv et un certain nombre d'autres pays, mais surtout les trois pays qu'on peut citer, c'est les USA, Israël et l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui on voit bien qu'il n'en est rien. L'influence iranienne ne baisse pas, au contraire elle s'élargit, et cette tournée l'a d'ailleurs confirmé. Surtout qu'on a vu effectivement que que beaucoup de questions d'intérêt commun ont été abordées et que la solidarité, par exemple, de la Russie sur nombre de questions a été de nouveau, une nouvelle fois confirmée, répétée par le chef de la diplomatie russe, M. Sergei Lavrov. On a vu également en Turquie où le chef de la diplomatie turc, Mevlut Çavuşoğlu, a également dit que face aux sanctions US, les deux pays, à savoir l'Iran et la Turquie, vont continuer à accroître la coopération économique, les projets économiques bilatéraux. Il a également appelé Washington à revenir à l'accord de Vienne et à le respecter. Donc on voit bien que l'Iran est tout sauf isolé, et l'influence iranienne se maintient et s'élargit. Et le troisième point très important dans le cadre de cette tournée, je pense qu'évidemment, on voit bien que la véritable notion de communauté internationale, je reviens encore sur ce sujet, elle se construit en Eurasie. C'est-à-dire que l'Occident a beau parler comme étant, l'Occident a beau s'autoproclamer comme étant le porte-parole de la communauté internationale qu'il ne représente aucunement, on voit bien que la véritable communauté internationale, elle se construit en Eurasie de par le point démographique, de par le point économique qui ne cesse d'augmenter, de par le point industriel et de par aussi la capacité de riposte en termes de défense. Et l'Iran joue un rôle très important dans ce cadre-là et plus généralement dans le cadre multipolaire. Je pense qu'en ce sens, c'est très positif et cette tournée le confirme amplement.
Merci infiniment pour ces éclairages, M. Garoff. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, M. le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français. M. le professeur, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, M. Radamanté. Bonjour. Et à votre cher invité de Moscou.
M. le professeur, M. Garoff a souligné, bien sûr, la place importante est crucial dans la République islamique d'Iran, dans les évolutions régionales. Dans quelle mesure, bien sûr, eu égard à cette tournée importante de M. Zarif, dans quelle mesure l'Iran s'impose aujourd'hui comme un pivot de nouvelles alliances régionales?
Eh bien, comme votre correspondant l'a dit, en effet, il s'agit là d'une grande importance interne, d'une grande signification internationale d'abord. Et sur ce plan régional, qui reflète justement une sorte de, non pas modification, mais progrès, disons, ou peut-on dire fixation même de ce qu'on pourrait dire du progrès technique dans cette région, qui est appelée bien sûr à métamorphoser, disons, si j'ai pu dire, l'ensemble des relations internationales, je dois dire que ce voyage met en relief les capacités, la principale capacité qui nous semble être celle de l'Iran aujourd'hui, qui n'est pas celle d'exportateur de matières premières seulement, mais capacités technologiques. En ce sens, disons, c'est une satisfaction, d'ailleurs, sur un plan très général, de voir qu'un pays accroît sa puissance essentiellement par sa science, sa technologie, son savoir-faire. Et c'est lui qui permet à la fois de maîtriser, bien sûr, de mettre en valeur chez lui et chez ses voisins, les capacités, disons, qu'offre la nature. Je prendrai l'exemple de l'Azerbaïdjan, qui est très riche, comme vous le savez, en pétrole et en matière et en gaz en particulier, et qui, justement, étant amené par une loi naturelle à un développement intérieur très important de sa société, a dû, par exemple, en 2017, c'est un point de détail, mais qui a son importance, importer de Gazprom un certain nombre de capacités gazières, alors que lui-même en est très riche. Cela signifie donc que cette question technologique est au centre de tout. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, disons, à maîtriser ce que l'on a, non pas l'économiser, mais disons le rationaliser. Et de ce point de vue, c'est cet apport rationnel, si je puis dire, un point de vue technologique, que l'Iran offre. Nous savons ici qu'il avait ceci contenu chez lui. Nous pensions bien sûr que toutes les mesures que les cercles américains, américano-sionistes et autres, disons, ont voulu obtenir par le blocus, disons, c'est-à-dire ces contraintes, n'ont pas du tout affecté. Au contraire, ont, à notre avis, donné une dynamique et un essor beaucoup plus grand à cette volonté technique, car la technologie est essentiellement une affaire de volonté, de capacité et de volonté d'exercice. Ceci, disons, nous permet aussi de voir de notre, je conclurai là-dessus, d'une autre façon, ce que l'on a dit être le, ce que votre correspondant a bien dit à Moscou, cette capacité de l'Eurasie. On parle de l'Eurasie, on parle aussi de la roue de la soie chinoise. Bon, tout ceci reste, disons, un peu superficiel. si l'on ne voit pas qu'il s'agit là, bien sûr, de, plutôt d'un développement, d'une volonté de développement également des pays caucasiens qui ont été, disons, endormis par différents facteurs et qui, bien sûr, disons, permettent, doivent permettre à l'Europe, puisque nous parlons depuis l'Europe ici, de faire un examen de conscience. C'est-à-dire que l'Europe doit comprendre ce que disait la philosophie en français au XVIIe siècle, Leibniz, que nous venons de l'Asie aussi, que nous sommes originaires de l'Asie, et donc considérés comme des parents proches, disons, ou lointains, mais des parents, disons, qui se rapprochent d'eux, ces peuples d'Asie centrale. Et je crois que c'est une conscience qui n'est pas tout à fait claire chez nous, en particulier chez ceux qui en restent encore aux vieux, disons, préjugés de la vie d'après-guerre, vous voyez, et donc qui doivent modifier, bien sûr, leur action. Je crois que cette modification doit provenir d'une initiative. Cette initiative, l'Iran l'a donnée, et je crois que les autres peuples du Caucase, la Turquie, etc., sera bien sûr influencée par cette démarche, qui est une démarche à long terme, voyez-vous, et qui, bien sûr, comme l'a dit, je répète encore notre correspondant, que je remercie très humblement, a une signification non pas régionale, mais internationale.
Merci pour ces précisions, monsieur le professeur, restez avec nous. Monsieur Egorov, selon de nombreux observateurs, le mot d'ordre de cette tournée serait entre autres de créer une dynamique à 6 propre à renforcer la stabilité d'une région stratégique limitrophe de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Comment cette dynamique à 6, cette initiative et ces interactions régionales seraient perçues par la nouvelle administration américaine?
Ben, vous savez, cette question est très légitime et je tiens également à remercier le professeur d'Ortigay parce qu'il a dit beaucoup, beaucoup de choses justes. Je le remercie pour cela. Je pense aussi que c'est dans l'intérêt aussi bien des peuples d'Eurasie que des peuples européens, disons de la partie occidentale de l'Europe, de la vieille Europe comme on l'appelle, mais en tout cas qui sont des civilisations indéniables. Évidemment, je pense que c'est dans l'intérêt commun de développer les relations et de forger des alliances, même si on sait que les élites concernées ils sont opposés car étant assujettis à Washington. Maintenant, concernant proprement dit votre question, alors écoutez, c'est sûr que cela, toutes ces initiatives ne seront pas bien accueillies à Washington. On voit bien avec quelle haine, je pense que c'est le mot aujourd'hui, l'establishment américain, quelle que soit la couleur, observe les processus d'intégration dans l'espace eurasiatique, dans son ensemble, que ce soit dans le cadre, par exemple, qui concerne proprement dit cette coopération entre la Russie, la Turquie, l'Iran et d'autres peuples du Caucase Sud. On voit bien ça dans le cadre intégrationnel avec les pays d'Asie centrale. On le voit dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. On le voit également dans le cadre de l'Union économique eurasiatique que l'élite états-unienne appelle tout simplement une renaissance de l'URSS, à laquelle ils sont fortement opposés sans se poser la question si les peuples concernés soutiennent ce processus. Et on sait que les peuples concernés, dans leur large majorité, soutiennent ces processus. Notamment en Ouzbékistan, récemment, il y a quelques mois, il y avait eu un sondage d'opinion, est-ce que l'Ouzbékistan devrait rejoindre l'Union économique eurasiatique, et les trois quarts des répondants, parmi eux beaucoup de jeunes, ont répondu par le favorable. Donc on pouvait se dire qu'il y a des personnes nostalgiques de l'Union soviétique, eh bien non, il y a beaucoup de jeunes, de très jeunes, qui ont également soutenu cette initiative. Donc c'est voulu par les peuples. Et bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, le très important, et en ce sens les efforts que font l'Iran, la Chine, la Russie, sont très importants. Pourquoi ? Parce qu'ils contribuent à mettre en valeur cette volonté des peuples concernés, et cette détermination qui les caractérise ne peut être stoppée par toutes les tentatives de bloquer, de mettre des bâtons dans les roues de l'establishment occidental, atlantiste, états-unien plus particulièrement. Je pense que c'est très important. En tout cas, cette interaction à 6, je pense qu'elle est également très importante, même si ça a été d'ailleurs rappelé dans le reportage du début de l'émission, la Géorgie, c'est quand même un cas plus compliqué. On sait que l'establishment géorgien est orienté sur l'Occident, sur Washington, même si je ne pense pas que cela soit éternel, mais en tout cas, la réalité actuelle est ce qu'elle est. Mais dans le cas plus proprement dit de l'Iran, de la Russie, de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie et même de la Turquie aussi, parce que la Turquie, encore une fois, même si elle est membre de l'OTAN, on voit bien qu'elle adopte des positions beaucoup plus indépendantes et souveraines dans le cadre de son interaction avec la Russie comme avec l'Iran, même s'il y a aussi des divergences, mais il y a aussi beaucoup de convergences. Ça, je pense que c'est un axe aussi très fortement à développer et qui va largement contribuer au renforcement aussi bien de l'Eurasie dans son ensemble que du concept multipolaire du monde de façon générale, malgré toute l'opposition des élites atlantistes qui sera poursuivie, j'en suis certain, mais cela ne va pas nous empêcher de poursuivre cette marche en avant, j'en suis certain.
Merci encore. Monsieur Garoff, une toute dernière question à Monsieur le professeur Dortiguier. Monsieur Dortiguier, alors des changements de couleur à Washington, ces initiatives régionales, ces alliances régionales, cette volonté des peuples de la région, comme disait d'ailleurs à juste titre Monsieur Igorov. Alors, avec tout cela, à quelle réaction faudrait-il s'attendre de la part de l'administration Biden?
Eh bien, oui, en effet. Je remercie Monsieur Igorov de ses appréciations et de ses jugements sur la question régionale et internationale. Je pense que l'administration américaine, disons, n'est pas du tout dans une situation de conquérante, mais de réaction, si je puis dire, dans tous les sens du terme, aux événements. Et qu'elle cherchera à maintenir, non pas du tout une indépendance, des intérêts proprement américains, mais ce qu'on peut appeler le statu quo, qui date de la Seconde Guerre mondiale, aux premières et surtout Seconde Guerre mondiale, à savoir, disons, essayer de maintenir ces États en question dans une sorte de demi-somnolence. Exactement ce qui se passait au moment justement de l'URSS. Et ceci n'est pas du tout, je dis ça sans aucune satire, vous savez, avec vraiment spontanéité, je remercie votre correspondant russe de dire cela, car ce n'est pas du tout le cas. Il est possible que l'administration américaine, soulève une sorte de fantôme, voyez-vous, une menace contre l'Occident. Il ne s'agit pas du tout de cela. Je crois qu'elle restera sur la défensive. Mais j'ajouterai qu'il faut se méfier justement d'organisations comme ce qu'on appelle l'État profond ou autre, enfin aux États-Unis. Ces gens-là ne peuvent, disons, réagir par une agressivité, démente, disons, ou un peu assez démente, à cette nouvelle prise de conscience. Et c'est pour cela que il faut à la fois se féliciter de cette initiative iranienne, mais en même temps que tous les peuples, y compris surtout la Turquie, qui est visée en effet, comme vous l'avez dit, comme l'a dit notre correspondant, par l'OTAN, etc., qui suscite des colères contre elle, de la part de nos milieux otanesques, de milieux occidentaux, il faut se méfier quand même de ces... prendre garde, disons, parce que cela ne débouche pas sur des aventures militaires, sans lendemain peut-être, mais qui pourrait bien sûr être néfaste, bien sûr, pendant très longtemps, à nos relations internationales. Je crois qu'il y aura une réaction de la part de l'administration Biden, mais je crois qu'elle ne peut rien contre le devenir historique.
Merci, Monsieur le professeur. Il nous reste 2 minutes, Monsieur Igorov. Quelle est l'importance de ces interactions régionales sur l'établissement des couloirs de transit sud-nord et sud-ouest?
Je pense que très important, d'autant plus que vous avez soulevé au début du reportage que cela contribue aux nouvelles routes de la soie promues par la Chine. Donc le cadre régional ouvre également de très grandes portes à la Chine qui observe et qui participe aussi activement à cette intégration, à cette grande intégration eurasienne, notamment via l'organisation de coopération de Shanghai où Pékin avec la Russie joue un rôle très important, sachant que l'Iran est d'ailleurs membre observateur, et on espère que le plus rapidement possible, l'Iran va devenir membre à part entière de cette organisation, de cette grande organisation eurasienne, et qui, je pense, elle aussi, représente pleinement la véritable notion de communauté internationale, du point de vue démographique, économique, militaire, et du point de vue civilisationnel également, c'est important de le rappeler. Donc je pense qu'effectivement cette interaction, et notamment on l'a vu dans le cadre de la tournée de M. Zarif dans les pays qui ont été cités, je pense que ça contribue également beaucoup aux échanges commerciaux et notamment à la facilitation des voies logistiques qui existent déjà et qui seront amenées à se créer en termes de nouvelles voies et à se renforcer. Et je pense qu'effectivement, plus il y aura encore d'interactions du point de vue économique et commercial, plus cela renforcera l'alliance politique, géopolitique, militaire. Et à partir de ce moment-là, il sera très compliqué, j'en suis certain, pour les opposants à cette intégration, à cette à ce concept du monde multipolaire, il sera très très difficile de pouvoir bloquer le processus en cours. Donc je pense qu'effectivement, les voies que vous avez mentionnées, les voies commerciales, les voies logistiques, sont très importantes également dans ce processus qui a été abordé aujourd'hui.
Mikhail Egorov, analyste chroniqueur à l'agence Observateur Continental depuis Moscou, monsieur le professeur Pierre Dortiguet, philosophe et politologue depuis Toulouse, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parle ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Poursuivant notre randonnée à Shiraz que nous avons commencé la semaine dernière, nous allons vous présenter des monuments historiques de ce chef-lieu de la province Fars. Le mausolée de Shah Cheragh. Ce mausolée, qui est le principal lieu de pèlerinage de la province, abrite le tombeau du fils du 7e imam des chiites, l'imam Moussa Kazem, qui, décidant de rejoindre son frère l'imam Reza, alors dans le Khorasan, fut assassiné en chemin par les agents du calife abbasside Mamoun et enterré à Shiraz. Outre sa valeur spirituelle pour les chiites, le mausolée en lui-même a une importante valeur historique et architecturale. À l'est du mausolée, on peut également visiter la mosquée Jame Atir, l'une des plus anciennes de la ville. La mosquée Nasir al-Molk. Datant de l'époque Qajar, elle se situe également à proximité du mausolée de Shah Cheragh. Elle comporte deux ivans, au nord et au sud, ainsi que deux parties couvertes, Shabestan, à l'est et à l'ouest. Celui situé à l'ouest est le plus beau. Il possède sept portes de bois ornées de verres multicolores, ses murs sont décorés de belles céramiques et son plafond orné de motifs floraux et de versets coraniques. La mosquée Vakil, située à l'ouest du marché Vakil et à côté du hammam du même nom, elle fait partie des monuments les plus beaux datant de l'époque Zand et dotée d'une grande importance artistique et architecturale. Construite sur ordre de Karim Khan Zand, cette mosquée est dotée de deux ivans et de deux shabestan. Sa décoration est inspirée de celle de la mosquée Vakil, située dans la même ville. Le marché Vakil, également construit sur ordre de Karim Khan Zand, ce marché est situé au centre de Shiraz. La mosquée et le hammam historique du même nom se trouvent à sa proximité. Ce marché tout en longueur est considéré comme l'un des sites les plus beaux restés du règne de Karim Khan Zand. Il semble que ce dernier, après avoir admiré l'ancien marché de l'art datant de l'époque Safavide, ait ordonné de construire ce marché à Shiraz selon le même plan. Le hammam Vakil. Ce hammam datant de l'époque Zand a été construit selon les techniques architecturales les plus novatrices de son époque. la forme de l'entrée, les pentes et les angles, tout concourait à conserver la chaleur au maximum. Ces trois monuments se trouvent dans une citadelle qui s'appelle Alge Karimkhani, construite par Karim Khan, 1750-1779, souverain de la dynastie Zand, dans sa capitale, Shiraz. La citadelle Alge Karimkhani se situait au nord-ouest de la vieille ville, non loin de la porte de Bar-e-Shah et à l'intersection des quartiers d'Arbe-Shahzadeh et Meydan-e-Shah. Elle est aujourd'hui délimitée au nord par l'avenue Nasser Khosrow, à l'est par l'avenue Shapur, au sud par l'avenue de Karimkhan Zand et à l'ouest par l'avenue de Shahdari. De point de vue architectural, cette citadelle est un grand et noble bâtiment rectangulaire. Elle était entourée originellement d'une douve que l'on disait être aussi grande et profonde que celle qui se trouvait à la frontière de la ville. À chacun des quatre coins de la citadelle se trouvent des tours rondes en forme de cône tronquée d'une hauteur de 15 mètres. Le bâtiment mesure 124,8 mètres d'est en ouest et 93,6 mètres du nord au sud. L'entrée unique se situe au milieu de la façade principale. Lorsque l'on entre, on se trouve face à des couloirs, des salles de garde ainsi que de l'entrée d'un hammam. Comme la plupart des hammams traditionnels, celui de la citadelle de Karimkhan contient également un vestiaire, une salle chauffée ainsi qu'un bassin polygonal orné de gravures en relief. La cour intérieure abrite deux piscines, un jardin ainsi que trois grands ivans devant lesquels se tiennent deux grands piliers en pierre. Chaque ivan contient des grandes pièces à trois portes ainsi que des escaliers menant à de petites pièces ainsi qu'aux ivans de l'étage supérieur. Chacun des quatre coins de la citadelle comporte une petite cour donnant accès aux fortifications et aux chambres adjacentes. La structure principale de la citadelle Karimkhan est composée de murs inférieurs, de piliers et de pavés en pierre. Le reste est en fait de briques en terre cuite avec des portes et des chevrons en bois. Les bases des murs extérieurs et des tours sont en pierre carrée, dégrossie, tandis que leur partie supérieure est ornée de briques entrelacées. Sur le fronton du porche de la porte d'entrée se trouve une représentation colorée de la scène du combat de Rostam avec le démon blanc sur des tuiles émaillées. Alge Karimkhan devint la résidence royale de nombreux souverains de la dynastie Zand, et ses tours ont parfois été utilisées en tant que prison. Ce fut ensuite le siège des gouverneurs généraux du Fars pendant la période Qajar et durant les premières années du règne des Pahlavi. Sa restauration a été entamée en 1977. Aujourd'hui, cette citadelle a été transformée en musée et gérée par l'Organisation du patrimoine culturel. Saray Moshir ou Golshan. Son monument de forme octogonale, datant de l'époque Qajar, est situé au bout du marché Vakil. L'architecture de cette œuvre de Mirza Abolhassan Khan Moshir al-Molk s'inspire du modèle des caravanserais safavides. Dans l'espace fermé de l'octogone, on peut admirer des bâtiments ayant de hauts plafonds carrelés et en morarnas. Le tombeau du poète Hafez, Hafeziyé. Au nord de Shiraz se trouve le mausolée du grand poète iranien Hafez. Un premier monument doté d'une voûte a été construit autour de la tombe pour la première fois sur ordre de Shamseddin Mohammad Yarmahi, ministre des Moghols d'Inde et un temps gouverneur du Fars. Il a été restauré à l'époque safavide. puis une seconde fois à l'époque de Nader Shah Afshar. Enfin, Karim Khan Zand fit construire le monument actuel reposant sur 4 colonnes et mit une pierre de marbre sur son tombeau, la même que l'on peut admirer aujourd'hui. Le tombeau de Saadiye, situé à 4 km au nord-est de Shiraz, au pied de la montagne et à côté du jardin d'Elgosha, le lieu de sépulture de Saadi est aussi celui où il a passé la fin de sa vie. Khadje Shamseddin Mohammad, ministre de l'Ilkhanid à Bagha Khan, a décidé d'y construire un mausolée, puis sur ordre de Karim Khan Zand, un monument royal en stuc à 2 étages y a ensuite été édifié. Les architectures traditionnelles et nouvelles se côtoient dans le mausolée actuel, devant le porche où figure un bel Ivan. Narenjestan de Qavam, ou l'orangerie de Qavam. Ce grand complexe historique construit par Qavam al-Saltané, gouverneur du Fars à l'époque de Nasiruddin Shah Qajar, comprend une maison, une orangerie et plusieurs hammams. Bagh-e-Iram. Ce jardin, situé à l'extérieur de la ville et à 3 km du mont Babakoui, date de l'époque seljoukite. Le bâtiment principal du jardin, construit selon les styles architecturaux, à la fois Safavide et Rajar, comporte 3 étages et un sous-sol où se trouve un bassin orné de belles céramiques multicolores. Le jardin en lui-même abrite de nombreuses espèces d'arbres et est utilisé par l'Université de Shiraz en tant que jardin botanique. Pour le reste, nous nous contentons de citer seulement les noms. Le mausolée de Khajouye Kermani, contenant le tombeau de ce grand poète, Emarate Kola Farangi, musée Perse, datant de l'époque Zand, et plusieurs autres jardins de Shiraz qui se caractérisent par la présence en son sein ou dans sa banlieue de nombreux parcs et jardins parmi d'autres, le jardin des oiseaux, le jardin Chehel Tan, le jardin Jahannama, le jardin Haftanan, le jardin d'Elgosha ou encore le jardin Afif Abad ou Golshan. Merci de votre écoute, chers amis auditeurs, et à la prochaine fois.